France Culture.
Bonjour,
c'est Magali.
Eh oui,
très bien.
Chantal, salut.
Ça va,
tu
chauffes ? Salut, ma chérie.
Bah oui, je suis levée, Marcel.
Et on est en compagnie de Delphine, qui est intervenante psycho-éducative et qui, comme chaque mardi et jeudi matin, attend un jeune garçon dont elle s'occupe deux fois par semaine.
Depuis quelques années maintenant, avec beaucoup de joie.
Bonjour, Mathias. Tu me dis bonjour ? Bah, tu me dis un vrai bonjour ? Tu dis bonjour à Chantal, Mathias ? Tu regardes Chantal ?
Bonjour
Chantal, non, elle est là Chantal.
Bonjour Chantal.
Ah, ça c'est beau. Tu dis bonjour à Marcel ?
Oui, à Marcel.
Oui, à Marcel.
Autisme, les combats d'une vie.
Tu veux un jus ?
Épisode 2, les difficultés de l'inclusion scolaire. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Cécile Lafont.
Alors, tu vas me dire. On va allumer la tablette, elle est ouverte, c'est parfait. Tu.
V.
B. Allez.
O.
Ah ! Oui. Allez.
Boire.
Super.
Je voudrais boire un jus de fraise.
Ok.
Pourquoi vous lui donnez toujours rendez-vous au café à Mathias ?
Mais parce que c'est clairement un moment où on peut échanger, c'est un espace de socialisation. Et en plus, il se sent ici vachement compris. On dit au revoir, on dit bonjour et on profite pour y boire du jus. souvent les personnes autistes ont des problèmes sensoriels, enfin, de toute manière, c'est un classique, hein, mais... et puis des problématiques avec par exemple des textures ou des goûts. Je travaillais avec un petit garçon qui mangeait que de la danette. Donc mon Mathias, lui à l'inverse, il adore manger. Et c'est en plus un bon moyen pour nous et pour moi de le motiver à travailler. On renforce et on pousse l'enfant avec alors soit des choses à manger. Alors bien souvent, ça peut être des chips, mais aussi des tomates ou des bouts de bonbons ou que sais-je.
Et c'est ça qu'on appelle la méthode ABA ?
Exactement, ça fait partie du panel, ouais, ouais. Donc, c'est une science du comportement qui a pour objet de motiver l'enfant déjà à changer de comportement et à le pousser à l'autonomie. Et donc pour ça, là actuellement... pour l'encourager à vraiment taper sur la tablette de façon autonome, je passe à nouveau, ce que je ne faisais plus depuis quelques temps, je repasse à nouveau par un renforçateur alimentaire. Voilà, donc c'est des vraiment tout petits bouts de bonbons, là, pour le coup. Donc, à chaque fois qu'il tape un mot de manière autonome, alors au départ, c'était une lettre, et puis de manière graduelle en espace. Et là, on arrive aux mots, groupe de mots, l'idée étant d'espacer et à terme, modifier le renforçateur et de l'élaborer, de l'éloigner dans le temps. Ça peut choquer évidemment que les renforçateurs alimentaires, certaines personnes peuvent être choquées, mais ça marche, et dans le cas de Mathias ça a tout à fait bien marché, donc c'est comme ça qu'on a démarré et qu'on a amorcé la tablette notamment.
B-O-N-J-O-U-R.
Je me demande pourquoi.
Bonjour.
Je me demande pourquoi.
Bonjour, je suis Mathias Crispo, j'ai 10 ans et je suis autiste.
Tu veux du jus ?
Oui, ça tu veux du jus.
Alors, tu veux du jus ?
Bonjour.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle...
Je m'appelle...
Mathias Crespo.
Crespo.
J'ai 10 ans.
J'ai 10 ans.
Je suis autiste.
Je suis autiste.
Et je suis beau comme un camion.
Je suis pas beau.
Je suis beau. Et je suis beau.
Je suis beau. Je suis beau.
Comme un camion.
Comme un camion.
Et là, on arrive en bas de chez Delphine.
Alors, on peut taper les codes ensemble. C'est un exercice aussi de pointage. Bravo, chouette. Allez, on y va, pousse. Allez, pousse. Souvent, enfin, lui est un peu hypotonique, donc je le contrains à pousser les portes. Même. On va recommencer. Oui, chérie.
Hypotonique, c'est qu'il a une faiblesse dans les...
Bon, il est un peu... oui, il ne met pas beaucoup d'énergie, de force. Bon, il a du muscle, hein, c'est pas ça, mais... voilà, ça l'enquiquine un peu de mobiliser ses muscles.
Béatrice et Frédéric, vous êtes les parents de Mathias, qui a 10 ans.
qui souffre d'un trouble du spectre autistique et il est non-verbal. Le dialogue passe par la tablette. C'est comme si on discutait avec lui. Les réponses, il les a. Il comprend tout sur tout. C'est juste incroyable. Mais il ne peut pas répondre.
On ne peut pas avoir de conversation ping-pong avec lui. C'est-à-dire que je pose une question, il me répond, je réagis, etc., etc. Ça, c'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. Pour le moment.
Pour le moment, oui.
Ça a été quoi, Béatrice, les premiers signes avant-coureurs ?
Alors, moi, je suis restée avec Mathias pendant mon congé parental. Quand il est né, je ne suis pas retournée travailler tout de suite. Et donc, on est restés ensemble tous les deux pendant toute cette période. Et moi, je voyais déjà des petites choses. Je trouvais qu'il ne répondait pas à son prénom. Il était quand même assez solitaire. Et puis, il avait des espèces de lubies. Il regardait beaucoup ses mains, son ombre. Il y avait aussi, c'est un enfant qui était hyper souriant, qui était gentil, affectueux. Donc moi, j'étais entre les deux, en fait. Moi, je voyais des choses et je me disais, c'est peut-être toi qui déraille. Tout le monde autour de moi me disait, mais laisse-le tranquille. Moi, j'oscillais complètement entre, c'est toi qui es dingue. Et non, il a vraiment quelque chose. Auparavant, on était allé voir un spécialiste à Bondy, qui, lui, m'avait carrément dit « Non, c'est vous qui n'allez pas bien. » Et donc, moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai fait une dépression, parce que c'était plus possible de vivre avec cette angoisse. Et en fait, petit à petit, les soupçons ont commencé à, devenir de vraies angoisses, parce qu'il grandissait et que, vraiment, la parole se développait pas. Puis les choses ont commencé à se préciser, notamment quand il est rentré à la crèche. Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a appelés assez vite, parce que la différence de comportement entre Mathias et les autres enfants était évidente. Moi, je savais, donc je n'ai pas été surprise. On nous a orientés vers un pédopsychiatre à Paris. On est resté 5 minutes. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette dame. Oui. Moi, j'ai posé la question, j'ai dit « il est autiste ». Elle m'a répondu « oui ». Voilà, bon, confirmation officielle, importante pour la suite, parce que si on n'a pas de diagnostic, on n'est pas pris en charge réellement. Et nous, on avait besoin d'une prise en charge MDPH.
La MDPH, c'est la maison départementale pour les personnes handicapées.
C'est à partir de là que tout commence, en fait. Voilà, on a déposé un dossier MDPH un an avant son entrée à l'école maternelle pour qu'il puisse avoir, à l'époque on disait AVS, maintenant c'est AESH, pour avoir une personne qui l'accompagne à la maternelle. Et donc on a fait ça un an avant qu'il rentre à la maternelle. Et le jour de la rentrée, effectivement, il avait cette personne qui était là. Et là commence la vie avec un enfant autiste. Mathias, viens.
Allez, tu viens par la maternité un petit peu.
Donc vous dites qu'il est passé par la maternelle ?
Oui, alors il a été en maternelle, une maîtresse absolument adorable, qui lui a d'ailleurs donné un abécédaire parce qu'il était le seul à s'intéresser aux lettres à ce moment-là. Tout petit déjà, il faisait avec ses doigts le A, le C, le Z dans l'air comme ça, le E, voilà. Et puis ça s'est arrêté d'un coup. On s'est dit, tiens, ou il a oublié, ou ça ne l'intéresse plus. Et on a eu quand même une maîtresse en dernière année, je tiens quand même à le préciser parce que le parcours scolaire est vraiment assez compliqué. Elles étaient deux, elles étaient en binôme. Donc moi j'ai appris à la fin de l'année, à la réunion de fin d'année, que Mathias n'allait pas en récréation. Il était tout le temps dans la classe, à rien faire, donc il secouait des ficelles. Ça a été une année d'enfer, quand même. Pas mal d'enseignants, soi-disant formés, et qui se retrouvent complètement dépassés face à des comportements d'enfants atypiques.
Tu poses ton manteau sur la chaise, s'il te plaît. Hop.
Alors, il a ses petites habitudes, ses rituels, donc il a sa ficelle.
Un petit lacet vert fluo.
Voilà.
Alors, chaton, c'est parti.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après le confinement, donc on envisageait une nouvelle rentrée scolaire et on a contacté une association qui s'appelait Un Pas en Avant pour avoir une aide aussi parallèlement à l'école, parce que l'école ne suffisait pas. Donc, on nous a proposé Delphine, elle est venue, on a fait sa connaissance.
On a discuté, donc là, on ne savait pas, mais pendant qu'on discutait, il n'en perdait pas une. Et puis au moment de partir, il est allé vers elle et puis il est allé lui faire la bise. Et là, je me suis retourné vers elle et je lui ai dit, je crois que vous êtes adoptée.
Allez, va.
Alors, Mathias, donc en fait, là, chaque jour, enfin chaque fois qu'on se voit du moins, il y a donc sa tablette et deux cahiers.
Delphine Loriot, intervenante psychoéducative.
Un cahier que je rédige sur le quotidien, sur comment il a réagi, ce qu'on a fait dans le détail. Et puis un autre cahier qu'il a nommé Bravo. Donc bah, on est à la bon an mal an, 195e séance. Donc en fait, je reprends toutes les phrases un peu importantes qui parlent de ses problématiques, de ses envies, de ses aspirations et puis aussi de ses chagrins et de ses inquiétudes. Quand j'ai commencé avec Mathias, il savait a priori pas lire, pas écrire, pas compter, rien du tout. Et il a fallu donc graduellement que j'aille le chercher, que je lui propose des activités. Puis en fait, je me suis rendu compte que finalement, il connaissait les lettres et puis après, il connaissait les syllabes. Et puis au final, cet enfant savait lire, écrire, compter. Enfin, c'était assez inouï. Hein. Sur les 3 dernières années ou les 4 dernières années où j'ai fait des bilans, des réunions à l'école avec les parents et les différents intervenants scolaires, la première année, on m'a dit « Formidable, Mathias a le concept du 1, le chiffre 1. » Puis l'année d'après, c'était le concept du 2. Puis après, le concept du 3. C'est un enfant qui fait des calculs avec des décimales et des choses comme ça. Donc voilà, si j'avais pas creusé un peu, si j'avais pas cru en lui et en ses capacités, si je m'en étais juste tenue à ce qu'on m'avait dit de lui, on n'en serait pas là. Et cette tablette, là, ça a été un outil d'ouverture magique, quoi.
On y va. C'est parti, mon chéri. Comment vas-tu aujourd'hui?
Je.
D'accord, très bien. Déjà, tu as tapé tout seul, on continue. Comment vas-tu? Je t'ai, c'est ce que tu veux dire ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Retour arrière, très bien. Donc, c'est pas ce que tu voulais dire. Ok, vas-y. Je.
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 Ne.
Ne.
C'est. Pas. Pourquoi?
Pourquoi? Attends, je te donne.
Donc là, les petits gâteaux, c'est renforçateur.
Exactement. Tout petit bout, mais ça suffit largement à le motiver. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne. Je ne. D'accord, je ne quoi? Allez, mon chat.
Parviens.
Parviens, d'accord.
Pas.
Pas. Allez, on y va. Un petit peu de gâteau. Allez, go! À me quoi?
Allez. Connecté.
Connecté. Ah oui.
Accent grave.
Ah. Parce que monsieur a une syntaxe et une orthographe formidable. Voilà, l'air de rien. Ah. Allez.
Ah.
Allez.
Votre.
Oui. Bravo. Bien que ce soit bravo, tata ficelle, c'est super, tu as le droit. Alors.
Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à me connecter à votre monde.
Allez, super. C'est vrai que j'ai quand même un petit problème avec l'école et avec la manière dont on n'a pas... on a perdu du temps, clairement, on a perdu du temps. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre que Mathias, on lui propose toujours la tablette. Je ne suis pas sûre que dans tous les moments de sa vie, ce soit généralisé, que ce soit à l'école, à la cantine, en périscolaire, je ne crois pas. On les accompagne, mais en tout cas, on ne prend pas en considération... à la fois ce que moi j'ai pu dire, ce que les parents ont pu dire, mais aussi maintenant des professionnels neuropsy qui ont vraiment attesté du fait que Mathias est en capacité de taper sur la tablette et en capacité d'échanger à des vraies compétences.
Les semaines, Béatrice et Frédéric, les semaines de Mathias, c'est un emploi du temps de ministre.
C'est ça, c'est à peu près ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, si on résume, donc le lundi, il va à l'école. Le mardi, il a sa journée avec Delphine. Le mercredi matin, il a sa séance de kiné maintenant. L'après-midi, il alterne entre donc le groupe d'habilité sociale et des séances de piscine. Et ben, figurez-vous que maintenant, monsieur sait nager. Donc, le jeudi, il a sa journée avec Delphine. Le vendredi, il va à l'école. Le samedi, en début d'après-midi, il a sa psycho-motricienne. Et puis, il reste que le dimanche pour se reposer.
Et puis, de temps en temps, le samedi matin, une fois par mois, il a la musicothérapie.
Écoutez, monsieur Savard, moi, je n'endors plus la nuit de cette histoire. Gabin désorganise toute l'école. Même avec les enfants de son papier, c'est plus simple. Hier, j'ai appelé l'inspection et on m'a dit qu'on était obligé de l'accepter.
Avant, tout ça ne se mélangeait pas, mais là, on marche sur la tête, hein. Je demande toujours un deuxième sucre quand la directrice me tend un café. Non mais comprenez la souffrance que doit endurer sa maîtresse. Déjà qu'on est en sureffectif, alors là, 29 plus 1, un gabin, ça compte triple. Vous poussez tout le monde à bout, monsieur Savard. Quand vous avez reproché à toute l'école que Gabin n'avait rien préparé pour la fête des mères. C'est tout de même pas notre faute s'il ne sait rien faire. Mais si vous y arrivez de votre côté, pourquoi persister à vouloir l'emmener à l'école? Sa place est sans doute à l'hôpital. La question se pose, monsieur Savard.
Gabin sans limite, mon amour de fils autiste, Laurent Savard.
Voilà, c'était ça, la directrice d'école. C'était charmant. École maternelle publique, hein, une fois encore. Quand Gabin a commencé la petite section, comme beaucoup de parents d'enfants autistes, il n'y avait pas d'AVS. Alors maintenant, on appelle ça des AVSH. Il n'y en avait pas. Parce que le fait qu'une AVS à l'époque soit nommée, ou un AVS, eh ben, il fallait que ça passe dans les tuyaux de la MDPH. Et donc, du coup, il faut déjà attendre un bon trimestre avant d'avoir la notification de la décision qui arrive en cours de second trimestre. Et donc, au final, on va pas vous nommer une AVS pour le dernier trimestre de l'année scolaire. Donc, l'AVS a été nommée en début de moyenne section. Donc, ça veut dire que toute la petite section, cette classe quand même qui est super importante, ben Gabin, eh ben, il l'a faite au fond de la classe. Ou quelque part, de ce qu'on comprenait, on lui donnait des gommettes qui pouvait coller comme il voulait, on lui donnait un bouquin qui pouvait déchirer comme il voulait, et vas-y, il avait d'autant plus des troubles du comportement, parce qu'au final, il n'était pas stimulé, alors que pendant ce temps-là, on apprenait les couleurs aux autres enfants, et cet épisode où la maîtresse de petite section a pleuré parce qu'elle n'arrivait pas à apprendre les couleurs aux enfants, et qu'il y avait 4-5 enfants qui devaient revenir un samedi matin pour apprendre les couleurs, parce que Gabin monopolisait trop d'attention dans la classe. C'est-à-dire que là, d'emblée, on comprend dès la petite section que Gabin ne sera pas accueilli comme les autres. Et là, quand même, on a eu la chance
quand même d'avoir Joseline, une AVS exceptionnelle, mais malheureusement qui n'a pas pu rester plus qu'une dizaine de mois auprès de Gabin.
Et là, notre chère directrice d'école, l'air de rien, dit, bah, si vous pouviez garder Gabin à la maison, parce que vous comprenez, sans... Donc, pendant plusieurs semaines, il n'était pas allé à l'école. Voilà.
Gabin, c'est ça, il y avait des interruptions. Il allait un jour à l'école, puis plus, puis après une semaine, et puis de nouveau, ça s'arrêtait. Enfin, c'était totalement perturbant pour lui. Et là, on a fait appel à un organisme privé.
On payait donc une AVS privée avec un organisme privé pour qu'on puisse être sûr qu'il aille à l'école publique. Ouais. Parce que sans accompagnement, il ne pouvait pas y aller. Ce qu'il faut voir, c'est que là, Gabin, il a à l'époque à peu près 6 ans, et que donc, les 7-8 premières années, déjà, vous en avez un peu ras-le-bol de devoir gérer des problèmes administratifs, des problèmes d'AESH qui sont nommés ou pas, d'AESH que vous payez ou pas, de psychologues que ben, vous payez dans tous les cas, pour accompagner Gabin à l'école. Et qu'il a fini en CLIS, en classe d'inclusion scolaire, par une heure par jour, avec une psychologue que là encore on payait, et pourtant une CLIS spécialisée dans l'autisme. Hein. Donc, à un moment donné, vous dites, bon, c'est pas à l'école que Gabin va apprendre quelque chose.
La ceinture.
La ceinture.
La ceinture. Dis voir toi, la ceinture. Tu dis avec maman, Théo?
Non, avec Tissot.
Non, pas Tissot. La ceinture.
Ceinture.
Oui, c'est mieux. C'est bien, la ceinture.
Théo, t'as aujourd'hui 20 ans. Tu as coutume de dire que finalement, tu te souviens finalement de ta vie, ou en tout cas, tu es capable de mettre des mots à partir de l'âge de 5 ans. C'est ça? Avant, t'as plus de souvenirs.
Avant, j'ai quelques bribes de souvenirs. À l'époque, je pensais que 5 ans, c'était 50 ans. Du coup, je pensais que j'étais plus vieux que tout le monde. Et ça, c'est le premier souvenir vraiment qui est pas flou, qui est le premier souvenir qui est très clair. Et avant celui-là, j'en ai pas d'autres.
Je peux me permettre de continuer.
Valérie Gacorajou, mère de Théo.
C'est à l'époque où j'écrivais le livre « Nos mondes entremêlés », j'ai demandé à Théo, si t'as des souvenirs, t'as le droit de venir me voir. Et un jour, il descend de sa chambre, il dit « Ah, ça y est, maman, j'ai un souvenir. » Quand j'avais 5 ans, je croyais que j'avais 50. Il a confondu 5 ans et 50. Et je croyais donc que j'étais plus vieux que vous et que vous m'aviez toujours dit que les petits obéissaient aux vieux. Et j'étais très en colère que vous ne m'obéissiez pas, que j'étais toujours le plus petit alors que j'étais plus vieux. Et je ne sais plus trop comment tu m'as dit, le pire jour de ma vie, c'est 6 ans. À nouveau, j'étais le plus petit.
J'y arrive ? Oui. 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 Bravo. Très bien. Très bien. Super. Comment on fait ? Super, Théo.
Oui, super.
Super. Super, mon chéri.
Valérie, pendant toute cette période, il n'y a pas d'école. C'est vous l'institutrice ?
Je ne suis même pas l'institutrice pour l'instant. Pour l'instant, je suis la pédiatre, la psychologue, la nounou,
la maman.
La maman, voilà. Mais à l'époque, on le pense toujours déficient intellectuel. Et donc pas d'école, etc. Et puis petit à petit, le langage venant, la compréhension venant, le dialogue venant, on réalise qu'il n'est absolument pas déficient intellectuel, il est même plutôt malin, plutôt vif d'esprit. Et du coup, je vais sur les sites internet des institutrices pour regarder un peu comment fonctionne l'apprentissage de la lecture. Voilà, donc je me fais toute une base de données, j'achète des bouquins, je discute et tout, et je décide de devenir sa maîtresse. Je vais être tout à fait honnête, c'est pas la partie la plus fantastique que j'ai vécue avec lui. C'était épuisant. Voilà, il fallait à peu près une heure et demie pour qu'il accepte de se mettre au bureau pour travailler. On pouvait travailler 10 minutes au début, puis un quart d'heure. Et puis des fois, il fallait pas qu'on y aille pendant 2 jours. C'était trop compliqué. Enfin, c'était douloureux. Voilà. Mais comme il avait une très grande mémoire, finalement, quand même, une volonté de progresser, ça a fonctionné. Et puis un jour, il a réalisé que la lecture lui permettait de lire les sous-titres de ses jeux vidéo. Tout d'un coup, il y a un intérêt à lire. Alors là, c'est...
C'est un robot.
Mais toi, tu es où là-dedans ? Tu joues pas dans ce monde-là, toi ?
Je suis pas là-dedans, en fait.
T'es où, toi ?
Bah, je suis nulle part dans ce monde. Ça dépend de quelque si je suis là.
Et pourquoi t'aimes bien ces jeux-là ?
Parce que... J'aime bien les fruits, moi. Mais celui-là, il est trop bien.
La première orthophoniste de Gabin était un vrai personnage, un peu comme sa directrice d'école, etc. Eh bien, tiens, je vais lire un extrait.
Laurent Savard.
Gabin va chez une orthophoniste. La cinquantaine passée et un peu perchée, elle a une passion pour le chant. De la salle d'attente, je l'entends, aidée d'un vieux bon tant pis, tenir la note pour que Gabin reprenne avec elle. Vole, 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 papillon! Allez, chante, Gabin, chante, Gabin! Avec une voix fausse et suraiguë. Allez, Gabin, il fait quoi, le papillon? Hein, il fait quoi? Il vole, Gabin, il vole! Mais aucun papillon ne s'envole jamais des lèvres de Gabin. Les sessions sont enregistrées sur cassette audio qu'on a pour mission de faire écouter à Gabin. En boucle.
Vole, 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 papillon.
Une cassette où, toutes les 10 secondes, quelle que soit la chanson, on entend « Allez, chante, Gabin, chante, chante, Gabin !» Ah, si j'étais Gabin, je l'aurais bâillonné depuis longtemps au pied de son bon tant pis. Il faut peut-être que je lui apprenne à faire les nœuds.
Vole, 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 papillon.
Puis au final, Gabin, qui n'avait pas trop de troubles à l'époque, c'était presque dans le cabinet de l'orthophoniste qu'il en avait le plus, quoi. Parce que c'était, moi déjà, de la salle d'attente, c'était insupportable. Après, en classe de grande section, Gabin, à un moment donné, on l'a mis dans une école pilote.
Oui.
Marie-Lou, mère de Gabin.
Expérimentale.
Une école comportementaliste, voilà. C'est ça. Où on faisait de la BA, on analyse le comportement pour pouvoir, entre guillemets, le corriger au mieux.
Pour apprendre aussi.
Pour apprendre au mieux. Mais autant, bon, cette méthode, on a obtenu des résultats, par exemple, pour aller aux toilettes, pour le sommeil aussi un peu, autant d'un point de vue cognitif, on voyait que quand même la machine cognitive qui est Gabin ne décollait pas du point de vue langage, du point de vue connaissance. Enfin, je me souviens d'un jeu, Nathan, pour apprendre à compter. Les mois que j'ai passé, et toi aussi, et les éducateurs aussi avec Gabin, pour essayer de lui apprendre à compter, ça n'a jamais marché.
Je vois sur votre table, là, dans le salon, il y a des petites photos, des pictos. Vous en servez au quotidien avec Gabin ? Quoi ça sert ? Comment vous l'utilisez ? Est-ce que c'est en lien finalement avec cette méthode ABA ? Ou est-ce qu'on est complètement à côté de...
Oui, c'est la communication par échange d'images.
En apposant des images, il peut dire, par exemple, je veux faire du roller. On l'a aussi en tablette, avec une synthèse vocale. La problématique, c'est que, malgré là encore tout ce qu'on a pu faire, on n'a jamais réussi jusqu'à maintenant à avoir la spontanéité de communication chez Gabin. C'est-à-dire même le fait d'aller vers sa tablette ou d'aller vers un classeur et de prendre le truc. C'est souvent, on doit lui amener sa tablette, on doit lui amener le classeur.
Gabin était pas mal dans l'échange pour la communication fonctionnelle. Quand il a fallu aller au-delà sur « je vois un chat », bon, là, c'est clairement, il n'y voyait pas son intérêt, je pense, ou enfin, en tout cas, ça ne lui parlait
pas. C'était
compliqué. C'était compliqué. Et là, il a tout rejeté. Et depuis, on a du mal, en fait, à reposer les choses.
Et du coup, on retrouvait tous les pictos derrière le radiateur.
Oui. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça ? N'importe quoi. Bah, montre-moi. C'est ta vidéo ? Ou c'est la bêtise que tu t'apprêtes à faire ?
On avait de toute façon parallèlement très vite mis en place des choses à la maison avec des psychologues, etc., qui venaient faire travailler Gabin sur des choses cognitives. Voilà. Mais ça, c'est un gros problème. C'est qu'en grandissant, ben Gabin, de plus en plus, n'a pas côtoyé d'enfants dits normaux, neurotypiques, donc des enfants, voilà. C'est-à-dire que c'est comme si, finalement, au bout d'un moment, Gabin, tu es autiste, eh ben, tu vas grandir qu'avec des enfants, des adultes autistes. Ben, moi, je ne pense pas que ce soit forcément l'idée du siècle. Mais comment vivre en inclusion ? Quand justement on a un autisme sévère ou très sévère, puisque là ça repose pour l'instant sur le système médico-social. Dans le système médico-social, ce n'est que comme ça, que des personnes autistes entre elles ou que des personnes avec handicap entre elles. Quel est le système qu'on peut mettre en place pour vraiment être en inclusion ?
S, oui.
S.
Très bien.
Trouve la première lettre du mot arc.
J'ai commencé à lui faire école à la maison avec des livres, du matériel, comme ça. Il a commencé à aborder l'écriture, la lecture, les mathématiques, vous voyez, les bases, mais vraiment... à son allure et surtout avec ses centres d'intérêt. Je suivais pas particulièrement le programme.
Valérie Gay-Corajou.
Mais à partir de là, Théo devient un enfant de son âge. Vous voyez,
il a
7 ans. 7 ans. À partir de là, le rapport à Théo change. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est plus on le soutient, maintenant c'est on l'accompagne. Et je ne suis pas au fait des règles, des obligations des parents. Moi, je suis tellement persuadée que les autistes ou tous les enfants qui sont porteurs d'un handicap, d'un trouble de ce genre, sont d'une certaine manière une charge dont l'éducation nationale ne veut pas, puisque j'ai lu des dizaines et des dizaines de témoignages de parents à qui on refuse l'entrée à l'école de leur enfant autiste, que j'avoue que je m'étais dit qu'on n'allait pas nous le réclamer. Puisqu'il a un diagnostic d'autiste encore de canard à l'époque, et que finalement, c'est comme s'il n'existait pas, quoi. Enfin, c'est l'idée que je me faisais. Sauf que on s'est retrouvé dénoncé aux affaires préoccupantes, parce qu'on ne scolarisait pas notre enfant, et à partir de là, il a fallu qu'on explique pourquoi on ne voulait pas le scolariser, et à quel point personne ne nous avait jamais aidés, qu'on avait été seuls, complètement seuls. Enfin, vis-à-vis de l'autisme, je trouvais que le gouvernement et l'éducation nationale étaient vraiment à la traîne. Ils prétendaient en savoir plus que moi, alors qu'ils ne savaient rien, ça me rendait folle. Et surtout, avec cette menace permanente du pouvoir de me retirer mon enfant. Il y a énormément d'enfants qui sont retirés à leur famille, parce qu'on croit qui sont battus parce qu'ils ont des bleus, forcément, il se mord, il se tire les cheveux, il se tape la tête, il a des bleus. Et puis, forcément, il crie, il est autiste, il est dérangé, et donc il a un comportement d'enfant qui ne va pas.
Mais ça, c'était une de vos grandes angoisses, c'était qu'on vous retire votre enfant.
Mais j'en fais des cauchemars encore. Encore. On a acheté une caravane à l'époque, j'étais prête à fuir la France. Vous voyez, on était désemparés et moi, personnellement, j'étais terrorisée, terrorisée.
Alors, un jour, se pointe chez vous, donc, un inspecteur.
Tout à fait.
Qui est accompagné.
Par une spécialiste, genre psychologue. En fait, Théo a commencé par une crise de panique et ils ont pu voir, là, en temps réel, ce que ça génère, une crise de panique. Effectivement, qu'une maîtresse avec 20 gamins derrière elle pourrait pas gérer ça, ni même une AVS, que ça fait peur, que c'est hyper angoissant et qu'il faut être là, vraiment là, quoi. Donc, bingo, c'était gagné, quoi, d'une certaine manière. Il y avait déjà la première moitié du contrat rempli. Théo ne peut pas être scolarisé. Clairement, il faut qu'il soit entouré de personnes qui le connaissent bien, qui savent comment le prendre.
Docteur Pantalon, quand on s'adresse à des parents, à des familles, on se rend compte qu'il y a un manque cruel de prise en charge et des parents qui sont extrêmement isolés, extrêmement démunis.
Il y a un vrai fossé entre ce qu'on sait qui fonctionne, ce qu'on recommanderait de mettre en place et ce qui existe dans les faits. On n'a pas encore réussi à uniformiser toutes les pratiques, on n'a pas encore réussi à former tous les professionnels de première ligne comme de deuxième ligne. Et puis, effectivement, il y a un problème de moyens.
Valérie Ventalon, médecin responsable du Centre d'évaluation diagnostique autisme à l'hôpital Robert Debré.
C'est-à-dire que quand on recommande une auxiliaire de vie scolaire pour accompagner un enfant scolarisé en primaire ou en maternelle, le fait est qu'il y a énormément de départements où même si l'accompagnant est notifié, le recrutement ne se fait pas. Notamment dans le 93 où il faut attendre plus de 3 ans pour disposer d'une auxiliaire de vie scolaire alors qu'elle est notifiée 20 heures par semaine pour un enfant depuis 3 ans. Et puis, il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail autour de l'intégration scolaire sous la forme d'unités d'enseignement maternel autisme. C'est quelque chose aussi de pilote, c'est quelque chose qui existe à Paris et qui se développe également dans toute la France. Mais par exemple, une UEMA, c'est 6 enfants et une UEMA, il y en a une par département. Et en plus, puisque c'est un suivi sur 3 ans et qu'il n'y en a qu'une, on sait que ce ne sont pas toutes les tranches d'âge qui seront concernées. C'est 6 enfants tous les 3 ans, ce n'est pas 6 enfants par an. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qu'il faudrait essayer de promouvoir. En développer plus devrait faire partie des projets à venir. Mais là, il y a un problème de moyens.
Viens. Allez.
Non, deux, trois.
Allez, sois gentil, viens.
Béatrice Crespo, allez. Mère de Mathias. Allez. Mathias ?
Alors, écoute, Jérôme va te poser une question.
Mathias.
Mathias, s'il te plaît. Allez-y, posez votre question.
Est-ce que c'est vrai que tu as écrit à Brigitte Macron ? Qu'est-ce que tu lui as dit ?
Je lui parlais de mon P-A-R-C-O-U-R-S.
Je lui parlais de mon parcours.
Elle n'a jamais répondu.
Mathias, il est capable de s'intéresser à l'heure actuelle, regarder un reportage de Stephen Hawking, de s'intéresser, de lire des revues scientifiques et de me demander à regarder Petit Ours Brun. Et donc, quand on lui demande comment il sait tout ça, comment il lit, comment il écrit, je sais lire depuis que j'ai 2 ans, maman. Donc, c'est compliqué parce qu'il est à la fois très grand dans sa tête et très petit. Donc il y a vraiment, je pense, quelque chose pour lui qui est difficile à gérer, d'autant qu'il grandit physiquement. Je le dis parce que je sais que ça le préoccupe. Il vient un petit adolescent et il n'est pas prêt. Très compliqué le corps pour Mathias. Là, en ce moment, il marche avec des plâtres parce que là aussi, il a progressivement... s'est mis sur la pointe des pieds. Alors c'est un trouble sensoriel qui est fréquent chez les autistes. Sauf que maintenant, il arrive à ne plus pouvoir le poser le pied par terre. Il marche constamment en danseuse. Donc là, on a pris les choses en main. On est allé dans un centre avec des médecins spécialisés, orthopédistes. Et donc, il porte des plâtres destinés à détendre le tendon qui s'est rétracté et qui l'empêche maintenant de poser le pied par terre. Donc ça fait 15 jours qu'il a des plâtres. Il en a pour encore une semaine. Or, c'est les plâtres de marche, hein. Mais c'est très lourd et très difficile pour lui. Et en même temps, ce matin, on est allé chez la kiné. Elle lui a dit « Est-ce que tu veux qu'on les enlève ?» Il lui a dit « Non, je veux tenir parce que je veux marcher comme les autres. » Il veut tenir, il a jusqu'à mardi prochain, parce qu'il en a marre de marcher sur la pointe des pieds.
Je vais au voudrais J je S E devenir T E O J E toujours je premier suis j'ai convaincu que garçon sens l'amour. Je suis convaincue que l'amour est le plus grand secret pour les personnes qui ont du mal avec la communication. Je pense aussi que j'ai des limites à communiquer avec les autres en fonction de leur capacité d'amour et de bienveillance à mon égard. J-E, je suis en cage dans mon corps.
De ne pas avoir ce corps qui marche comme il l'aimerait.
Delphine Loriot.
Qui n'est pas coordonné avec son cerveau qui marche divinement bien. C'est une vraie souffrance. Et de porter cette souffrance au quotidien et d'arriver à garder le moral, de l'humour, et puis tout simplement d'avoir de l'espoir. Enfin, on est, nous, en tant qu'intervenants éducatifs, si on ne le porte pas, si on ne l'aide pas, si on ne lui donne pas d'espoir, mais c'est terrible. Et je pense que c'est l'être le plus courageux que je connaisse, vraiment, vraiment. C'est plus qu'utile et c'est vraiment fondamental de proposer à chaque enfant non-verbal, alors évidemment selon ses capacités, en tout cas un objet de communication alternative. Alors la tablette, en l'occurrence, est formidable. On peut s'en servir sous forme donc de clavier AZERTY, mais on peut aussi s'en servir avec des pictogrammes, on peut tout organiser. Et si ça peut donner la possibilité à un enfant de communiquer, enfin, faut surtout pas passer à côté. Mais ne serait-ce que donner la possibilité à un enfant de dire qu'il a mal aux dents ou mal au ventre. Enfin, voilà, comment se priver de ça ? Là, il y a une autonomie qui est en train d'émerger. Et ça, bon, d'une, ça va l'aider probablement à rentrer et à continuer ses études. Mais il faut qu'il continue d'être autonome.
Moi, je travaille en collège. C'est peut-être ça, moi aussi, mon problème, c'est que je suis peut-être extra lucide par rapport à ce que je vois autour de moi, et je me dis, mon fils, au collège, l'année prochaine, au secours.
Béatrice Crespo, mère de Mathias.
Je le vois pas du tout là-dedans. Même en classe suivie par une AESH, même dans une classe ULIS, honnêtement, ça va être compliqué. Alors, on cherche aussi des solutions dans le privé, hein, parce que dans le public, il n'y a rien, ou très peu. Donc là, on est en train de chercher.
Je voudrais devenir le premier garçon qui rappelle à tous que les handicapés sans voix restent des êtres humains qui doivent être respectés.
On est dans la banlieue sud de Paris, dans une petite allée privative où il n'y a que des maisons. Et on a rendez-vous avec Mireille Battu, qui est la maman d'un garçon de 16 ans, qui s'appelle Louis, qui est autiste non-verbal et qui a un frère jumeau qui s'appelle Georges.
Bonjour Louis.
Alors voilà, Louis. Voici Louis.
Bonjour.
Allez-y. Tout à l'heure, il a trouvé de nouvelles sonorités. Mais ça peut mettre du temps, hein, donc... Il dit des tas de choses, alors qu'il est non-verbal. Hein. Non-verbal au sens langage oral. Hein. Mais en réalité, il exprime tellement de choses que des fois, je me demande si c'est pas parce que, de toute façon, il n'a pas besoin de plus. Quoi. En fait, que ça lui convient et qu'il sait l'exprimer. Voilà, ça me fait bien plaisir. Je lui en sais gré, je suis contente de ça. Et j'ai plutôt cherché à ce qu'il reste quelqu'un de joyeux. C'est ce que j'espère pour lui dans la vie, en fait. J'ai deux garçons, hein, deux jumeaux. Alors, le fait d'avoir deux enfants aussi différents en même temps, c'est un peu... Voilà. Louis, je te dis à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu nous ramènes ?
Bien, oui.
Un paquet de gâteaux?
Ouais.
Allez.
Non, laisse ça.
Vous avez écrit un texte sur l'inclusion scolaire, Mireille Battu. C'est quoi votre position?
C'est qu'elle n'existe pas aujourd'hui. En réalité, on a prolongé Louis d'une année en crèche pour essayer de constituer les conditions qui lui auraient permis de rentrer à l'école maternelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une sélection à l'école maternelle. Hein. Puisqu'on va à l'école maternelle pour apprendre à être élève. C'est ça le but. Hein. Et il y a un prérequis, c'est d'être propre. Ne pas être propre à l'âge de 3 ans, à sceller son destin scolaire. Tant que l'école sera conditionnelle, l'inclusion n'existe pas. Alors, dans le cas de Louis, quand il a été décidé en équipe éducative qu'il n'avait pas les conditions requises pour rentrer en maternelle, il se trouve qu'il existait à côté de chez nous un centre de soins et d'enseignement qui s'appelle la Fondation Vallée. Et donc, il est rentré en hôpital de jour. Donc voilà, c'est la chance que j'avais, et d'avoir des gens qui sont capables à la fois d'amener la pédagogie, mais aussi l'éducatif et le thérapeutique, enfin, l'ensemble de ce que moi j'appelle le triptyque nécessaire pour le développement des enfants qui ont un autisme, ou un TND, on je dis aujourd'hui de nos jours, hein, c'est trouble du neurodéveloppement. Donc il a fait un petit peu d'école, vous voyez, mais dans un contexte qui n'était pas du tout celui de l'inclusion.
Septembre 2017, une situation extrême. Paul, CE1. Mon élève autiste de 8 ans est perclus de douleurs intestinales. En larmes, il refuse d'aller aux toilettes. Il est terrifié par les conduits de chasse d'eau et ou par le fait de déféquer. Il se retient, souffre ainsi régulièrement. Aucun auxiliaire de vie n'est pour le moment disponible, étant donné les difficultés de recrutement vu la précarité des contrats. Paul est un autiste de bon niveau, réfléchi, joyeux et sociable une partie du temps. Mais il connaît des moments de crise qu'il faut parvenir à résoudre dans la classe, dans le couloir ou en récréation. À force d'exigences bienveillantes, les crises en classe se raréfient à mesure que nous nous connaissons. En récréation, malheureusement, il reste imprévisible, comme si le bruit ou l'agitation le poussait à saturation. On prévoit alors une récréation au calme avec des jeux de construction, car les crises incontrôlées nous font craindre pour la sécurité des autres enfants. On progresse petit à petit, mais dans un épais brouillard. Entre la classe, les toilettes et la récréation, l'ampleur des difficultés rend le besoin d'aide urgent. L'envers de l'école inclusive. Magali Jean-Clair.
En théorie, depuis 2005, une loi pour l'égalité des droits et des chances permet aux parents qu'ils souhaitent de scolariser leur enfant handicapé dans une école ordinaire. À l'époque, Magali Jean-Clair, vous étiez encore jeune professeur des écoles. Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
Donc cette loi du 11 février 2005, elle s'appelle donc « Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Donc le grand changement, en fait, c'est que tout enfant sans distinction peut être inscrit à l'école de son quartier et bénéficier d'une scolarité ordinaire. Donc l'intention de cette loi est bonne, à condition de ne pas conduire à une inclusion systématique où on ne tiendrait pas compte de la lourdeur des handicaps de certains enfants. J'ai eu des enfants autistes pour qui ça s'est très bien passé. Et dans le cas de Paul, scolairement, ça se passait bien. Mais il y avait cette souffrance physique qui posait un problème quotidien, de taille, à laquelle on n'avait aucune réponse. Donc quand votre élève se tord de douleur et que vous devez appeler la famille, au quotidien, ça vous pose question. Et là encore, on se retrouve tout seul. J'avais l'impression qu'on faisait vivre à certains enfants une forme de maltraitance. Un enseignant ne peut pas être à la fois psychothérapeute, infirmier, ergothérapeute. Vous faites du bricolage. Et quand c'est quotidien, vous mettez à mal la pédagogie aussi.
Fin septembre, un auxiliaire de vie scolaire est enfin affecté. S'en suivent 3 mois ubuesques. J'alerte au premier jour à cause de ses propos étranges, son ton saccadé et son attitude incongrue. Voulant justifier son retard, il tente avec insistance de me faire toucher son blouson, trempé de sueur, et s'étonne que je ne remarque pas combien il est en nage au moment où j'essaie vainement de faire se ranger mes élèves dans le couloir. Son expression malaisée, sa difficulté à communiquer de façon pertinente m'ont d'emblée questionné par rapport au suivi d'un élève autiste. Puis la situation empire, les lubies aussi. Son entêtement à mâcher du chewing-gum, à vouloir se changer avec les élèves dans les vestiaires de la piscine, à faire des étirements en classe, à rentrer dans des arguties interminables à tout moment. Il agit en dépit du bon sens avec Paul et n'a pas la distance physique et émotionnelle adéquate. Pendant ce temps, Paul régresse largement et ne s'investit plus, amusé à manipuler son accompagnant. Quelque temps plus tard, la situation devient intenable. Premier jour de neige, Miguel est au comble de la nervosité et fait les 100 pas dans le fond de la classe, le regard étrange et intense, refusant de s'asseoir, sous les regards perplexes de mes élèves un peu mal à l'aise. J'ai peur que quelque chose ne se passe. Je l'oblige à quitter la classe. J'avise le directeur de mes fortes préoccupations. Je rédige un rapport de plusieurs pages. Finalement, il est renvoyé chez lui. C'est ainsi que l'on a recruté une personne en proie à des troubles psychiques importants pour prendre en charge un élève autiste. Paul a en effet régressé et a fini par rejoindre une classe dans une unité d'enseignement dédiée à l'autisme en milieu ordinaire. Doté d'un personnel spécialisé et soignant sur les lieux, ces classes restent rares mais semblent présenter des conditions un peu plus favorables.
On recrutait à l'époque des AVS, auxiliaires de vie scolaire.
Magali Jean-Claire.
Parmi un public loin de l'emploi. C'était la doctrine officielle. Pourquoi ? Parce que les contrats étaient précaires et qu'il n'y avait pas de candidats. Donc pour trouver du personnel, il fallait aller recruter des personnes, malheureusement, qui peuvent être de bonne volonté, mais parfois en grande difficulté d'insertion sociale. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça s'est vraiment amélioré. On a changé d'ailleurs la dénomination de ces personnels. C'est accompagnant d'élèves en situation de handicap, AESH. Cependant, on a toujours un problème d'accompagnement majeur, c'est qu'on n'a pas assez de ces personnels. Et c'est essentiel pourtant. Et l'État a décidé de troquer le principe d'aide individuelle, qui était la condition de base d'une inclusion réussie, pour un accompagnement mutualisé, qui devient la règle. C'est-à-dire qu'un enfant va partager son accompagnant avec d'autres élèves de la même classe ou de la classe d'à côté ou bien d'une autre école. Et on a des élèves qui se retrouvent tout seuls une grande partie de leur temps scolaire en autonomie, sachant que le professeur ne peut pas être avec lui au quotidien, alors que le handicap demanderait à ce qu'il y ait une présence beaucoup plus importante, un soutien.
Aujourd'hui, l'école cherche à devenir plus inclusive.
Mireille Battu, mère de Louis.
Mais elle ne le fait en France que par le biais de l'accompagnement, qui est en fait une approche de compensation. C'est-à-dire, vous avez un handicap, on va le compenser en vous permettant d'avoir un accompagnant, soit individuel, soit collectif, mais on ne modifie absolument rien dans les pédagogies. J'ai été regarder comment ça se passe dans d'autres pays. L'Italie est connue comme étant le pays qui est le plus proche des pratiques de l'inclusion. Dès qu'un enfant handicapé entre dans une classe, souvent la classe est divisée en deux, eh bien un enseignant de soutien va être nommé. Si par ailleurs l'enfant a besoin d'un accompagnant, il aura aussi un accompagnant. Mais en Italie, on considère bien que dans une classe où il y a des enfants handicapés, il faut deux enseignants. Le co-enseignement n'existe pas en France. Il y a donc une scolarité quasiment impossible, sauf pour quelques profils où les difficultés sont un petit peu d'ordre comportemental ou sensoriel, mais pas trop d'ordre cognitif ou de capacité intellectuelle. Hein. Donc il y a une énorme masse de jeunes. Moi, j'ai compté qu'il y a 200 000 enfants sans scolarité identifiés en France. Et une grosse partie sont à la maison sans solution.
Valérie Gacorajou, au fil du temps, la relation avec le père de Théo s'est détériorée, à tel point que vous avez décidé de quitter la Savoie pour Palavas-les-Flots, dans le sud de la France, avec votre fils.
Ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller près de la mer, pour avoir un autre paysage que la montagne savoyarde. Et puis surtout, j'avais entendu parler d'une école privée, une petite association, qui instruisait les enfants autistes, qui s'appelait Amestiste. Et je vois le numéro de la présidente de l'association, donc je tape à sa porte. C'était un mercredi, elle m'ouvre en peignoir. Et elle me voit avec mon fils, mon chien, mes larmes. Et tout de suite, elle me dit « Entrez ». On parle des heures, parce qu'elle avait vécu la même chose que moi, en fait. Et elle a créé cette école parce qu'elle trouvait rien. Il s'avère qu'un élève quittait l'école à la fin des vacances de février, on était en février, et qu'il y avait donc une place. Donc, bon.
Arrivé au bon moment, au bon endroit.
Avec la bonne personne.
Exactement.
C'était incroyable. Vous voyez, à l'époque, je souffrais beaucoup. J'ai eu pas mal de problèmes de santé. J'avais le dos en vrac. Je m'étais fait implanter toutes les dents. J'avais perdu toutes mes dents. Enfin, j'étais dans un état physique lamentable. J'étais au bout de mes forces, quoi. Vraiment au bout de mes forces. Je tenais parce qu'il fallait tenir, quoi. Enfin, on tenait parce qu'il fallait tenir, parce qu'on s'aidait beaucoup. Et il me fallait de l'aide de toutes les manières possibles. Et que cette école, bon, il a fait une journée d'essai. Alors, il m'a avoué des années après
que j'avais pas aimé.
Qu'il n'avait pas aimé. Merci d'avoir attendu. Merci. Et là, ben, il commence par deux demi-journées, après deux jours, trois jours, avec malgré tout une obligation, la cantine, qui a failli tout faire capoter. Mais heureusement, des maîtresses absolument géniales, qui ont pris en compte son aversion pour la nourriture, qui sont allées tout doucement, elles ont été tellement merveilleuses.
Qu'est-ce qu'on vous dispensait dans cette école ?
Il n'y avait pas d'examen déjà, il n'y avait pas de notes.
Pas de notes.
Aucune comparaison possible donc. Mmh.
Ils étaient trois par classe, c'est une institutrice spécialisée, il y avait une psychologue, une psychomotricienne, une orthophoniste, donc c'est-à-dire vraiment tous les pôles compliqués, complexes pour les enfants autistes. La grande difficulté de cette école, et en même temps sa grande force, c'est qu'elle s'occupait d'enfants avec un diagnostic complet, enfin à l'opposé. Enfin, vous aviez deux élèves très très atteints, vraiment avec des autismes profonds, sévères, presque morbides, puis d'autres qui allaient pas trop mal, et puis Théo.
En Savoie, j'avais toujours un petit peu ce sentiment de, on va dire, solitude, où j'avais l'impression d'être le seul à être autiste. Parce que j'étais conscient que j'avais des différences, que j'étais autiste. J'arrivais pas exactement à dire ce que c'était, mais être ami avec des personnes entre guillemets normales, c'était compliqué. Et j'ai toujours voulu genre avoir un pote qui était comme moi. Et du coup, là, avec une quinzaine d'élèves, à cette époque, j'ai pu me faire ami avec quelques-uns d'entre eux. Donc c'était cool. Notamment un, qui s'appelle Vincent, avec qui je me suis hyper bien entendu. Nos deux mondes s'accordaient. Étaient presque les mêmes, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ça qui a fait que cette amitié était si importante.
Ce qui était vraiment impressionnant, j'en ai beaucoup parlé avec les maîtresses, c'est que Vincent, il n'est pas non-verbal, mais beaucoup, beaucoup moins de facilité d'expression que Théo, avec un vocabulaire très pauvre et surtout encore beaucoup d'écolalie.
Les écolalies, on peut rappeler.
Oui, les écolalies, c'est des phrases qu'on répète tout le temps. La cage de Billy, la cage de Billy, la cage de Billy.
Salut, c'est moi, Vincent, j'espère. C'est parce que j'ai fait trop classe, et là, je prends un numéro.
Et lui, hein, il s'exprimait beaucoup à travers les dialogues de Mario Bros, le jeu vidéo, voilà, Mario Bros, et en prenant les voix. Ce que Théo avait fait plus jeune, déjà.
C'est quoi ce truc de canon ?
Et quand ils se sont mis à jouer ensemble, à travers donc des mondes, des jeux inventés, des personnages inventés, Théo s'est mis au niveau de Vincent. C'est-à-dire que Vincent, ne pouvant pas parler aussi bien que Théo, tu l'as rejoint d'une certaine manière, hein, Théo. Tu l'as rejoint dans sa manière de communiquer, avec des petits cris, avec des petits gestes silencieux et surtout avec les mains. Et c'était très reposant parce qu'il pouvait enfin être lui-même et ne pas répondre à des attentes extérieures de être mieux, être meilleur.
Ouais, c'est ça, concrètement.
Ouais. C'est vraiment super génial. Et un truc, voilà, caméra.
À un moment, avec Vincent, on s'entendait encore très bien, mais j'arrivais plus à m'accorder à son monde. Et ce qui fait que ça finissait presque par me déranger. Et en fait, à un moment, je me sentais plus... Disons que je sors plus de l'autisme. La bulle, je commence à petit à petit, à moins en moins m'en servir à ce moment-là. J'avais à ce moment-là beaucoup d'amis que j'avais découverts sur le net, avec qui je suis encore ami aujourd'hui, et qui, eux, ne sont absolument pas autistes. Donc, ce qui fait que j'ai pu avoir découvrir vraiment une réelle amitié profonde, à quoi ça ressemblait, et de voir à chaque fois passer, on va dire, d'une version de moi-même qui replonge dans sa bulle avec Vincent pour directement après repasser au moment où j'en étais, ça finissait par devenir fatigant. Et Vincent, à chaque fois qu'il venait chez moi, par exemple, ou que j'allais chez lui pour qu'on joue, ça finit par, pour ma part, plus être vraiment du bonheur, mais plus de la tristesse, ce qui fait que j'ai fini par plus être capable de vraiment lui répondre en rentrant dans ses jeux. Ce qui fait que, vu que je me sentais plus capable, à chaque fois qu'il m'envoyait des messages, à un moment, j'ai arrêté de répondre. Et il a continué pendant genre à peu près un an, je dirais. Et je me sentais vraiment juste pas de répondre. Puis jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et à partir de là, il a arrêté d'envoyer des messages. Donc, vraiment l'impression d'avoir abandonné, mais je me sens pas de lui reparler pour m'excuser parce que trop peur la réaction qu'il pourrait avoir.
Théo va bientôt avoir 16 ans, donc ça fait 6 ans qu'il est dans cette école. Et je pense qu'il en a fait le tour. Je pense que Théo est apte à l'après-améthyste. J'aime autant vous dire qu'il y a encore 6 mois, c'était même pas question. Hein, d'abord, il voulait pas quitter son meilleur ami Vincent, et puis il était bien dans cette structure. Et là, il arrive à se projeter en tant que jeune adulte dans un projet de vie qui va faire cohabiter ce qu'il veut et ce qu'il peut.
Hé, hey, voilà, qu'est-ce qui se passe là ? Faudrait peut-être se faire venir. Bon, tant pis. Hé, hey, je t'ai dit de pas faire pipi ici. Bon, d'accord, ici. Dans le trou, s'il te plaît, oh, c'est pas vrai.
Merci à Delphine Loriot, Mathias, Béatrice et Frédéric, les parents de Mathias, Laurent Savard, Marie-Lou Agathe et leur fils Gabin Agathe Savard, Valérie Gay-Corajou et Théo Fache, aux professeurs Valérie Ventalon, Élie Jumeau et Anna Marouani, ainsi qu'à toute l'équipe du service psychiatrie de l'enfant de l'hôpital Robert Debré. Enfin, merci à Mireille et Louis Battu, ainsi qu'à Magali Jean-Clair. Extrait de « L'envers de l'école inclusive » de Magali Jean-Clair, lu par Caroline Menon-Berteux. Extrait du film « L'autisme couleur améthyste » de Solène Caron et Valérie Gay-Corajou. Prise de son Thomas Robin, Yvan Charby, Jérôme Casamayou et Xavier Lévesque. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau et Emmanuel Laurentin.
D'accord, le petit cochon est
parti. Autisme, les combats d'une vie, épisode 2, les difficultés de l'inclusion scolaire. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Cécile Lafont.
Oh. Je vais me dormir un peu.